RCF. M comme midi, Quentin Pourbet, François Bertin.
Et dans cette première partie de M comme midi, Quentin, on va parler de L214.
Et nous accueillons pour cela la référente Nord-Pas-de-Calais de cette association, Maud Grégoire. Rebonjour.
Rebonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous pour évoquer donc l'action de cette association qui est engagée donc sur le combat de défense et de protection des animaux, dans la dénonciation aussi de conditions d'élevage de ces animaux et par conséquent également dans la dénonciation de certains systèmes de restauration. C'est pourquoi vous mobiliserez demain samedi de midi à 14h devant le restaurant Burger King, place François Mitterrand à Lille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de cette mobilisation ?
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est le lancement d'une grande campagne nationale qui a lieu donc aujourd'hui à Paris et demain dans plus de 30 villes partout en France. Le but de cette campagne, c'est d'encourager l'enseigne Burger King à s'engager enfin contre les pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets de chair. Donc c'est des millions de poulets qui sont concernés. Et cette demande, elle s'inscrit dans le cadre d'une évolution sociétale, une évolution des mentalités. Aujourd'hui, il y a plus de 9 Français sur 10 qui s'opposent à l'enfermement à vie des poulets. Et donc, il est plus que temps que voilà l'enseigne Burger King se mette à jour et rejoigne d'autres enseignes qui se sont déjà engagées. C'est le cas de KFC, de Domino's Pizza, de tous les supermarchés français. Donc il y a là une réelle attente et une réelle nécessité qu'il y ait un engagement pour les animaux.
Ouais, je crois que c'est le cas également des boulangeries Paul qui sont, on le sait, tout historiquement une entreprise nordiste d'ailleurs. Alors pourquoi avoir ciblé parmi toutes les chaînes de restauration rapide Burger King plutôt qu'une autre ?
Eh bien, tout simplement parce que Burger King est l'une des dernières à ne pas s'être encore engagée. On a dialogué pendant plusieurs mois avec tout un tas d'enseignes qui se sont engagées au fur et à mesure, justement en ayant conscience qu'il y a là une évolution sociétale, des attentes des consommateurs et des consommatrices. Et là, ça fait 2 ans que nos sollicitations envers Burger King restent lettre morte. Et donc l'idée aujourd'hui et partout en France demain, c'est d'interpeller l'enseigne, d'attirer son attention pour qu'enfin elle réagisse et qu'elle s'engage.
Alors s'engager à quoi finalement ? À dire nous mettons la pression sur nos éleveurs pour qu'ils produisent de telle ou telle manière en fait, parce que c'est pas Burger King qui produit lui-même ses poulets. Vous m'arrêtez si je me trompe ?
Non, pas du tout. Donc Burger King s'approvisionne auprès d'éleveurs et auprès d'abattoirs et peut tout à fait demander à ce que les standards d'élevage soient relevés. Donc à ce que les poulets soient moins entassés, parce qu'actuellement on a les standards, c'est 22 poulets par mètre carré. Donc imaginez-vous, vous représentez un mètre carré au sol, vous imaginez qu'il y a 22 poulets qui sont entassés là-dedans.
Ils se chevauchent en fait.
Ils se chevauchent, ils se blessent. Il y en a qui évoluent même au milieu des cadavres de leurs congénères qui ne survivent pas à ces conditions de vie. Voilà, ce sont des animaux qui ont été, qui sont issus de sélection génétique, qui font qu'ils grandissent extrêmement rapidement. Et ça provoque tout un tas de maladies et de souffrances. Ces animaux, ils ont du mal à se déplacer.
Il y a des hypertrophies, ils sont mal développés, les pattes sont trop fragiles par rapport aux... Enfin, ne peuvent pas supporter le poids de l'animal.
Tout à fait. La plupart d'entre eux, quasiment tous, ont des infections aux pattes. Voilà, donc certains n'y résistent pas et donc leur cadavre se décompose au milieu de leurs congénères. Et puis, donc, pour les autres, c'est une vie de souffrance pendant 35 jours. Et donc, pour les faire survivre pendant ces petits 35 jours de leur misérable vie, on les bourre d'antibiotiques avant de les envoyer à l'abattoir. Voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité de l'élevage intensif de poulets en France. Et 9 Français sur 10, évidemment, s'opposent à ces conditions d'élevage et il faut que les enseignes s'engagent également.
Maud Grégoire, vous êtes référente pour l'association L214 qui dénonce donc ces conditions d'élevage et qui, pour cela, font notamment pression sur la chaîne de restauration rapide Burger King afin qu'elle-même appelle ses fournisseurs à améliorer leurs standards. Une question de François Bertin.
Oui, alors on connaît bien L214 avec de nombreuses vidéos depuis plusieurs années, des vidéos entre guillemets volées pour faire le buzz et mettre la pression sur notamment les abattoirs. Là, vous voulez mettre la pression sur Burger King en bloquant leur chaîne d'alimentation. Pourquoi vous n'allez pas directement dans les élevages pour mettre la pression sur les éleveurs puisque finalement c'est là la base ?
Alors, d'une part, il ne s'agit pas du tout de bloquer Burger King. Voilà, on souhaite interpeller l'enseigne parce qu'encore une fois, ça fait 2 ans que nos demandes restent lettre morte. Donc là, l'idée, c'est d'attirer leur attention et de leur demander de dialoguer avec nous pour qu'on puisse trouver une solution et répondre à cette attente des consommateurs. Et ensuite, effectivement, Burger King peut ensuite s'approvisionner différemment et de demander aux éleveurs de réajuster leurs pratiques. Et je ne doute pas que ces éleveurs auront aussi envie d'améliorer leur cadre de travail et les conditions de vie des animaux. Donc, c'est tout à fait entendable et c'est tout à fait faisable. Encore une fois, tous ces concurrents se sont engagés. Donc, c'est bien la preuve que c'est tout à fait possible, que ces objectifs sont totalement inatteignables, Voilà. Et voilà, pareil du côté des supermarchés, ça a été fait, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas possible du côté de Burger King.
Et d'après vous, pourquoi c'est pas encore fait chez Burger King ? Question d'argent ?
Il y a sûrement des considérations financières là-dessous, mais l'enseigne, c'est une enseigne qui ne fait que de croître, qui est en pleine expansion, qui marche très très bien. Elle a tout à fait les moyens financiers, humains, les ressources pour atteindre ses standards. On est une enseigne qui marche très bien.
Alors cette enseigne, d'ailleurs, elle travaille avec des éleveurs de quelle région ? On sait que notre région, Nord-Pas-de-Calais anciennement et Hauts-de-France bien sûr depuis longtemps, est une région d'élevage, élevage porcin, élevage de poulets aussi, en particulier dans les Flandres. Est-ce que c'est aussi auprès de ces éleveurs de la région que Burger King se fournit ?
Alors, à ma connaissance, non, ce n'est pas auprès des élevages locaux que se fournit Burger King. Voilà. Mais pour autant, c'est clair que dans notre région, on assiste également à une explosion des projets de création et d'extension des élevages intensifs, notamment des élevages intensifs de poulets. Et ça nous inquiète aussi beaucoup parce que, c'est problématique sur tout un tas d'aspects, qu'il s'agisse de la souffrance animale, de la dégradation de la qualité de vie des riverains, de la pollution, de la contribution au réchauffement climatique, voilà. Et même pour les éleveurs, en fait, c'est extrêmement problématique, ces élevages-là, puisque ce sont d'énormes infrastructures qui coûtent extrêmement cher. Donc ce sont des gens qui vont s'endetter, tout ça pour se dégager un revenu extrêmement faible. Et donc même la filière ne devrait pas encourager les éleveurs à s'engager et à prendre de tels risques financiers. Par exemple, il y a quelques mois, L214 a publié une enquête sur l'élevage de pian dans le Pas-de-Calais. Donc une enquête qui, encore une fois, montre de terribles images de poulets difformes, issus de sélection génétique. Mais cette enquête, elle soulignait aussi que l'éleveur, il avait fait un emprunt de 1,4 million d'euros à rembourser à hauteur de 10 000 euros par mois. Tout ça pour se dégager un revenu pour lui de 900 euros et pour sa femme de 1500 euros. Donc c'est un risque extrêmement élevé. Au moindre aléa, au moindre problème, il y a ce risque de faillite. Et donc même dans l'intérêt des éleveurs, la profession ne devrait pas encourager les éleveurs à prendre de tels risques.
Et vous interpellez Maud Grégoire, donc on l'a entendu, cette chaîne de restauration rapide Burger King. On parle de la situation de l'élevage aussi dans la région. Pourquoi ne pas prendre à partie la région précisément, les Hauts-de-France en tant que collectivité? Rappelons que les Hauts-de-France ont participé par exemple pour 400 000 euros à la rénovation en 2017 de l'abattoir de Valenciennes. Abattoir qui a fermé hier pour des raisons sanitaires pour 2 mois, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, par exemple, les Hauts-de-France se disent près de leurs éleveurs et du système des abattoirs, etc., financent ce système-là. Dans le même temps, vous, association, vous interpellez plutôt les chaînes de distribution de restauration. Pourquoi ne pas dire à notre collectivité locale, vous auriez peut-être d'autres options de politique publique à mener.
Et j'aimerais compléter Quentin justement sur la région, c'est que en plus Burger King a signé un partenariat avec la région Hauts-de-France il y a quelques années pour réhabiliter certains restaurants. Quick, on peut le dire, il y a un partenariat qui existe. Pourquoi justement ne pas interpeller la région ?
Alors c'est en fait exactement ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de l'association, on agit à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on cherche à sensibiliser les consommateurs, à les informer sur les conditions terribles de vie des animaux dans les élevages intensifs, sur ce qui se passe aussi derrière les murs des abattoirs. On interpelle également effectivement les industries agroalimentaires, les chaînes de restauration, et on demande aussi effectivement aux élus, aux décideurs et décideuses politiques d'intervenir, notamment justement pour arrêter d'encourager ces élevages qui se multiplient. En juin dernier, en particulier, on a organisé une grande journée contre l'élevage intensif dans les Hauts-de-France. Donc c'était une coalition d'associations dont faisait partie L214, mais également des associations de riverains, des associations de protection de l'environnement et aussi la Confédération paysanne. Donc on a marché tous ensemble ce jour-là, en juin dernier, pour demander justement aux décideurs et décideuses politiques de ne plus cautionner, de ne plus donner les autorisations pour ces élevages-là qui sont absolument terribles sur tous les plans.
Et cette interpellation sur la place publique, sur l'Agora, en quelque sorte, c'est donc demain, notamment devant le restaurant Burger King, place François Mitterrand à Lille. Ça débute à midi, de midi à 14h, hein, donc cette manifestation que vous organiserez. Maud Grégoire, vous qui êtes référente Nord-Pas-de-Calais pour l'association L214, merci d'avoir répondu à l'invitation d'RCF Hauts-de-France.
Merci à vous.
M comme midi, Quentin Pourbé, François Bertin.
Et aujourd'hui, dans les écoles, un hommage à Samuel Paty est rendu. Il est bon de se questionner à cette occasion sur le bien vivre ensemble.
Et bien vivre ensemble, oui, mais ensemble avec nos religions respectives, on pourrait croire que c'est impossible et pourtant on peut vraiment coexister ensemble, comme le prouve le mouvement du même nom que nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui. Pour en parler au téléphone avec nous, Nathalie Chifolo, responsable de Coexister, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je vais vous demander de bien vous rapprocher du téléphone. Coexister, c'est un mouvement interconvictionnel de jeunesse et d'éducation populaire reconnu d'intérêt général, aconfessionnel et apartisan, permettant à des jeunes de 15 à 35 ans de créer du lien social et de promouvoir un mieux vivre ensemble. Clairement, qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors, juste avant, je vais préciser que je suis responsable du groupe de Lille, parce que du coup, c'est un mouvement qui existe dans toute la France, et moi, je représente l'antenne de Lille. Mais qu'est-ce qu'on y fait ? En fait, le but, c'est vraiment de regrouper des personnes de différentes convictions, donc que ce soit des personnes croyantes, donc que ce soit musulmanes, chrétiennes, juives, bouddhistes, mais aussi des personnes qui sont athées ou bien agnostiques, et principalement des jeunes, en fait. On invite les personnes de 15 à 35 ans à tenir des rôles, à représenter la situation. Mais bien sûr, quand on fait des événements, c'est ouvert à bien plus large. Et donc, en fait, c'est autour de trois axes principaux. Ça va être le dialogue par la rencontre dans un premier temps, donc faire des discussions, par exemple, sur des sujets liés à ces sujets-là. Ça va être visiter des cultes qu'on n'aurait pas l'occasion forcément de voir. Ça va ensuite être la solidarité, donc faire des actions de maraude, aller rencontrer la personne SDF par exemple. Et puis la sensibilisation, on intervient dans des collèges et des lycées pour parler de ces faits-là, pour déconstruire des préjugés, présenter la laïcité. Voilà principalement ce qu'on fait.
Alors, Coexister, vous l'avez rappelé, hein, ça se passe dans 45 villes en France. Il y a 2300 coexistants qui coordonnent 1350 événements de dialogue. Ça permet de développer l'esprit critique des citoyens. Il y a 450 opérations de solidarité qui favorisent l'engagement civique des jeunes. On est un an après le meurtre barbare de Samuel Paty, cet enseignant d'histoire. Et après les attaques qu'on a pu voir également sur des mosquées, sur des synagogues, comment arrivez-vous à garder la foi que l'on peut encore et toujours coexister ensemble ?
Alors c'est vrai que c'est des sujets un peu complexes, et notamment du coup ça va faire un an Samuel Paty, et en fait parfois on arrive à faire des rencontres où on va pouvoir parler de ces sujets-là, en fait en mettant vraiment un safe space, c'est-à-dire que par exemple ce qui est dit va rester là, on parle que en jeu, on ne représente pas toute sa religion. Et ça permet vraiment de parler de ces sujets-là et un peu de mettre de la, enfin, d'en parler et du coup d'aller mieux par rapport à ça et pas le garder pour soi. Et puis c'est drôle que vous m'invitiez aujourd'hui parce que le week-end dernier, c'était notre week-end de rentrée à Paris où du coup on était une centaine de personnes vraiment de convictions très différentes. Et en fait, tout au long du week-end, on a pu faire différentes prières qui étaient proposées, que ce soit des prières juives, chrétiennes, musulmanes. Et du coup, par exemple, la prière chrétienne, ça avait pour but de reprendre notamment des chants de Thésée. Et du coup, des personnes de cette confession étaient là et le faisaient. Et puis, des personnes qui n'étaient pas du tout pouvaient en prendre part. D'autres moments de prière, c'était plus expliquer comment ça se faisait. Et du coup, en fait, je trouve ça vraiment réjouissant de savoir que des personnes qui ne font pas du tout partie d'une croyance ou même qui n'y croient pas, il y a des athées qui étaient très intéressés par tous ces moments-là, ils prennent part. Et c'était des moments vraiment, vraiment très forts.
Alors, vous l'avez dit, vous en parlez entre coexistants de tout ce qui se passe à travers le monde, sans vraiment révéler toutes les conversations. Comment est analysé ce qui se passe à travers le monde, toutes ces guerres qu'on pourrait qualifier de guerres de religion?
C'est des sujets dont on parle beaucoup lorsqu'on intervient dans des établissements scolaires, et c'est très intéressant. Mais souvent, on trouve ça vraiment très triste. Et en fait, parfois, on part du principe qu'on est d'accord pour ne pas être d'accord lorsqu'on parle de sujet, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas respecter l'autre, qu'on ne doit pas respecter sa croyance, même si on ne la partage pas. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Voilà.
Alors, Nathalie Chifolo, je rappelle, vous êtes responsable de Coexister ici dans la région, et vous l'avez rappelé, hein, même les athées peuvent faire partie de ce mouvement. Ça peut être étonnant pour un mouvement religieux, entre guillemets.
Oui, c'est pour ça que justement on s'appelle un mouvement interconfessionnel et non pas interreligieux, parce qu'on considère vraiment que les athées et les agnostiques, donc pour simplifier les personnes qui préfèrent ne pas se prononcer ou qui ne savent pas, vraiment on considère qu'elles ont leur part, parce qu'il y a de nombreuses personnes pour lesquelles les sujets religieux les intéressent beaucoup et pour lesquelles en fait ça peut vraiment être une croyance de ne pas croire. Voilà. Et puis surtout, il y a des nombreux pays où ce n'est pas envisageable en fait qu'une personne soit athée, et du coup qu'en France on puisse l'être et pouvoir l'affirmer, c'est assez fort. Et donc c'est intéressant toujours de partager des sujets religieux avec des personnes qui ne croient pas, mais qui peuvent tout à fait comprendre, qui peuvent tout à fait donner également leur avis.
Alors, vous l'avez rappelé, le mouvement Coexister France a fait sa rentrée la semaine dernière. Quels sont les projets que vous allez mettre en place tout au long de cette année, que ce soit ici dans la région ou même nationalement?
Nationalement, par exemple, il y a des formations tout au long de l'année. Très, très bientôt, il y a une formation qui a pour but en fait d'apprendre sur le fait religieux, par exemple, d'apprendre sur la religion qu'on ne connaît pas, mais aussi d'autres choses, par exemple, comment communiquer plus positivement avec la personne qu'on a autour de nous. Et puis, il y a des formations, par exemple, justement pour intervenir en milieu scolaire, parce que c'est encadré, n'importe qui ne peut pas le faire, bien sûr. Et puis, au niveau plus local, nous, à Lille, par exemple, la semaine prochaine, on organise une discussion à propos de la foi à l'épreuve du confinement. Et puis, on va en organiser d'autres. On compte, par exemple, visiter des lieux de culte. Et ça, c'est des événements qui sont, bien sûr, ouverts à tous et à toutes.
Et comment je fais justement si je veux rejoindre Coexister?
Alors au niveau national, déjà il y a un site, donc coexister.fr, et puis après aux antennes plus locales, par exemple à Lille, à la fois on a un Facebook, ou à la fois il y a un mail lille@coexister.fr, ou que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur le mail, on peut tout à fait envoyer des messages.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Nathalie Chifolo. Je rappelle que vous êtes la représentante de Coexister ici dans la région, ce mouvement qui permet de montrer qu'on peut vivre ensemble même si nous n'avons pas la même religion. Merci beaucoup.
M comme midi, Quentin Pourbet, François Bertin.